With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Est-ce normal d'avoir le sentiment de repartir de zéro après une pause ou un long arrêt? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamsters Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je regroupe plusieurs questions qui m'ont été posées, notamment par des messages privés. Et c'est vrai que, en fait, j'ai un petit peu l'expérience de ces longues pauses, de ces plus ou moins longues pauses, et même des pauses très très longues. Et la question, elle se résume vraiment, c'est est-ce normal d'avoir le sentiment de repartir de zéro après une pause ou un arrêt plus ou moins long? Et c'est vraiment une question, je le dis, qui je connais bien, et c'est normal, j'ai l'impression qu'on me la pose un petit peu, parce que quand on regarde mon parcours, j'ai repris le sport après des années d'arrêt, hein, où pendant plus de 10 ans, je n'ai pas fait de sport. J'ai pris aussi beaucoup de poids, donc j'ai perdu 30 kilos. J'ai pris aussi une pause voulue de quelques semaines, par exemple après le marathon. À une époque, je faisais une pause aussi au mois de novembre. C'était ma pause, vous savez, j'ai fait un épisode sur la pause, sur l'importance de la coupure annuelle, hein, que je ne fais plus désormais, mais que j'avais, cette année-là, j'ai mis en place une coupure annuelle pour différentes raisons que j'avais bien expliquées à ce moment-là, notamment sur le fait que au mois de novembre, je me sens avec moins d'énergie. Et puis, il y a eu le confinement où j'avais pas couru pendant tout le confinement, contrairement à d'autres qui couraient dans leur jardin ou sur leur balcon. Et puis, il y a eu la pause aussi, non voulue, pour blessure, opération. Et donc, blessure, c'est pas des petites douleurs que j'ai pu avoir par le passé, notamment après le fameux confinement, où au bout de 2-3 jours ou 4-5 jours, j'avais eu une douleur au mollet. Et puis surtout, l'an dernier, après les opérations, notamment l'opération du genou, où là, finalement, j'ai eu 6 mois, on va dire, où j'ai pas couru énormément, et ou même quasiment pas. Et donc, avec la rééducation, où j'ai vraiment pu reprendre au mois de juin, et puis après, j'avais vraiment repris au mois de juillet, et puis en courant vraiment tous les jours, depuis, hein, depuis maintenant, ça fait plus d'un an que je cours tous les jours. Donc, le constat qu'on va faire, que je vais faire, moi en tout cas, c'est que ces pauses sont vraiment des freins quand elles ne sont pas voulues, et qu'elles s'imposent, surtout quand elles viennent d'une blessure, mais aussi quand elles viennent d'une grosse fatigue. Et là, c'est vraiment un élément important parce qu'on va distinguer un petit peu les pauses de 2-3 semaines de coupure annuelle où on se dit bon, là, je fais une coupure, je pars en vacances, je vais pas, voilà, je repartirai mieux derrière, etc. Donc là, on décide de sa pause. Et puis il y a des pauses qui s'imposent, j'ai envie de dire, notamment celle de 1 mois ou plus pour blessure, mais il peut y avoir aussi des pauses pour perte d'énergie, perte de motivation, fatigue, j'avance plus, quoi que ce soit, et qui peuvent durer d'une temps un petit peu indéterminé, j'ai envie de dire. Moi, je me rappelle que mon blues post-marathon, au début, j'ai dit, ouais, je fais une pause d'une semaine ou deux, puis en fait, 2-3 semaines après, j'avais pas franchement une très grosse envie de courir, je marchais, mais j'avais pas une envie vraiment qui était importante. Et donc, si vous vous sentez, en fait, dans ce sentiment-là que vous vous épuisez, il y a un moment, c'est bien aussi de regarder. Et c'est un conseil que je vais vous donner. Parce que il y a vraiment un élément qui est important, c'est de distinguer la pause que vous allez choisir de la pause qui va s'imposer à vous. Et si vous sentez que vous épuisez et que vous risquez de casser, en fait, quelque chose dans votre corps, notamment musculairement, mais aussi dans la tête, la motivation, etc., il vaut mieux se dire, je fais une pause. Je fais une pause annuelle. C'est ce que j'avais fait une année au mois de novembre, c'était il y a 2 ans. Après mon trail anniversaire, au mois d'octobre, j'étais lessivé, j'avais réfléchi un petit peu au truc. J'ai dit, ouais, bon, là, l'automne arrive, j'ai moins d'énergie, la nature globalement a moins d'énergie. Je décide de faire une pause plutôt que de forcer et me fatiguer et me sentir et tomber dans la démotivation et le risque de blessure. Et vraiment, c'est le point que je voudrais dire qui est vraiment important, en fait. C'est que si vous devez faire une pause, choisissez la pause. Ne laissez pas votre corps et votre tête imposer une pause à un moment donné où peut-être vous n'avez pas du tout envie de le faire, mais où elle va s'imposer parce que le corps, il va dire stop, parce que le mental va dire stop, il va dire j'en ai marre, j'avance plus, etc. Donc là, Vraiment, c'est important parce que il y a une différence entre ces deux types de pauses. Si vous faites une pause annuelle de 2 semaines, par exemple, bon bah vous savez que vous allez perdre une partie de votre niveau parce que dès que vous entraînez pas pendant 2 semaines, vous perdez une partie de votre niveau. Mais vous savez aussi que ça va revenir très vite. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez faire une petite reprise un petit peu avec un petit peu d'alternance course-marche, une ou deux séances, et ça va revenir assez vite. Par contre, après une longue pause, après une pause qui s'est imposée, après une pause pour blessure, après une pause pour fatigue mentale, j'ai envie de dire un peu une sorte de burn-out de la course aussi, qu'on pourrait faire des choses comme ça, on ne sait pas quand ça va revenir, comment on va revenir, à quel ils vont revenir. En fait, on est rempli de doutes. Est-ce que je vais pouvoir recourir? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir faire comme avant? Est-ce que je risque de me reblesser? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais avoir des douleurs? Est-ce que je vais redevenir le coureur que j'étais, le sportif que j'étais, etc.? Toutes ces questions-là, l'an dernier, je me les suis posées. Quand on me dit, il faut vous opérer du genou, je crois que je suis rentré à la maison en disant à ma femme, je sais pas si je vais pouvoir recourir. Sur le coup, j'ai joué un doux. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir recourir? Et à l'époque, j'avais appelé Pascal d'Apiron et Léla m'a dit, mais Pascal, il s'est fait opérer du ménisque qui a 19 ans et il court comme un lapin. J'avais fait un épisode sur le sujet, justement, où je lui ai demandé des conseils, comment lui voyait, d'où ça venait, comment c'était passé, etc. Et j'avais été très rassuré quand il m'a dit qu'il avait même oublié que c'était le genou qui était opéré. Parce que, en fait, et je me rends compte que petit à petit aussi, moi, j'ai oublié, petit à petit, je suis en train d'oublier que mon genou a été opéré, etc. Donc, j'ai eu des doutes. Il y a des doutes qui viennent comme ça. On se dit, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir reprendre? Est-ce que je suis capable de reprendre? Est-ce que je vais retrouver mon niveau et autres? Alors que, quand on fait une pause qui est voulue, bah, on sait que ça va revenir, en fait. Parce qu'on se dit, bon, bah, je vais faire un petit programme de reprise, je vais faire un peu d'alternance course-marche, etc. Je vais reprendre petit à petit. Ça, je vais remettre, il va peut-être me falloir une petite semaine pour reprendre tranquillement. Et puis après, je remets la machine en marche et je vais revenir à mon niveau rapidement. Quand la pause est plus longue et qu'elle s'impose, là, par contre, on a plus de doutes. Alors maintenant, comment gérer ces périodes-là? Comment on fait quand on reprend? Et vraiment, c'est quatre grands points. Premier point, déjà, c'est d'oublier le passé. En fait, il faut oublier le meilleur niveau que l'on a eu, car on reprend pas au niveau que l'on a eu avant. C'est-à-dire que on s'arrête à un niveau. Du moment que vous arrêtez, au bout de 10 jours, 15 jours déjà, de toute façon, votre corps a commencé à perdre les capacités, les compétences qu'il avait. Donc, déjà, on recule. Donc, que ce soit une pause voulue ou une pause non voulue, du moment que vous arrêtez pendant plus de 2 semaines, déjà, vous savez que quand vous allez reprendre, vous n'allez pas reprendre au niveau que vous aviez au moment de la pause. Alors, peut-être pas très loin, surtout si vous étiez fatigué ou vous commenciez à mal courir, etc. Bah, peut-être pas très loin quand c'est une pause qui est voulue, vous êtes peut-être pas si loin que ça, mais dans tous les cas, vous devez pas vous comparer avec celui que vous avez été juste à ce moment-là. Et c'est d'autant plus vrai sur les blessures. Par exemple, après une opération du genou, me comparer avec le moi marathonien était très très mauvais pour le moral. Quand je reprends, et si je me compare avec le moi marathonien, je me dis, mais j'ai perdu ma vitesse, et d'ailleurs j'ai une tendance à le faire, parce que j'ai grossi, j'ai perdu ma vitesse, je suis beaucoup plus lent, déjà je me trouvais pas très rapide avant, alors là je me dis, je suis encore vraiment beaucoup plus lent, j'arrive pas à courir, etc. Et c'était une erreur, parce que le moi marathonien, quand je fais le marathon, je suis sur une période. Alors, il y avait une blessure, notamment pour la périostite, qui était une blessure en plus, alors je l'ai pas citée celle-là, mais qui pour le moral était vraiment très très mauvaise, qui m'avait vraiment cassé le moral parce que ça m'avait fait louper le marathon que j'ai prévu pour mon anniversaire, mais qui m'a permis de repartir sur d'autres bases. Et donc, j'étais reparti sur, on va dire, 6 gros mois hein, de préparation, hein, de remise en niveau, de reprise, etc. Puis le programme, mes 10 semaines de préparation spécifiques au marathon. Et donc, j'étais affûté, quoi. J'avais perdu du poids, j'avais travaillé tout un tas de choses, je faisais des entraînements club, je faisais 4 entraînements par semaine. Donc forcément, si je me compare à ce niveau-là, je ne suis pas bon. Par contre, à ce moment-là, quand je reprends, notamment après une aussi longue pause, bah, la comparaison que je peux faire, c'est de me comparer avec le moi quand j'ai repris après des années de pause, après des années d'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, me dire, ben, par rapport, il y a 5-6 ans, quand j'ai repris ce jour de décembre, un peu péniblement, en essayant de reprendre la course, comment j'étais quand j'essayais de recourir à une époque, et ben je me rends compte que même si je reprends en apparence à zéro, en fait, je repars pas à zéro. J'ai une meilleure technique, je cours plus facilement, mon souffle revient un peu plus vite, je reprends un peu plus vite mon cardio, je récupère un peu plus vite, j'ai plus de compétences, je sais mieux m'entraîner, je comprends mieux comment ça fonctionne, ma pose de pied, elle est meilleure, ma foulée est meilleure qu'avant, je le brouille, ben, je retombe pas sur ces pas bam 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 d'éléphant que je faisais avant, même si j'avais pris du poids après mon opération, j'ai repris quand même 10 kilos l'an dernier, pas loin. Et j'étais un poids qui était pas celui que j'avais quand j'avais repris la course, parce que j'étais à plus de 90 kilos quand j'avais repris la course. Là, j'étais quand même un tout petit peu plus léger, mais même la sensation, j'avais une sensation d'être quand même plus, beaucoup, beaucoup plus léger. Alors que bon, objectivement, j'étais quand même plus lourd qu'avant l'opération. Mais la comparaison que je vais faire, c'est pas celle juste avant la blessure, pas celle avant au marathon, etc. C'était la comparaison avec le moment qui était finalement le moment de reprise précédent. En fait, et me dire, bah, par rapport à ma reprise d'avant, eh ben, je suis largement mieux. Et ça devient très rassurant, en fait. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. On oublie le passé un peu récent, j'ai envie de dire, et on trouve un point de comparaison qui est vraiment un bon passé. À l'inverse, par contre, si vous avez été un sportif de très haut niveau, ou un sportif de bon niveau, et que vous avez fait une grande pause, et que vous reprenez comme ça, ne tombez surtout pas dans la comparaison justement d'oublier ce sportif de haut niveau que vous avez été, parce que votre corps, dans tous les cas, c'est totalement désadapté et vous n'êtes pas capable de reprendre à ce niveau-là. Et c'est vraiment important de le comprendre, hein, cette histoire. C'est que il faut y aller avec une progressivité, et cette progressivité, c'est mon deuxième point. C'est parce que pendant votre pause, qu'elle soit longue ou courte, le corps a évolué. En fait, sur une pause longue, on va même dire qu'il s'est désadapté de l'effort. Il s'est désadapté au niveau des tendons, des muscles, l'appareil cardiovasculaire. Le mental, tout s'est désadapté en fait. Notamment si vous retombez dans votre canapé, la désadaptation à l'effort est vraiment criante. C'est-à-dire que courir était peut-être facile à une époque, et puis tout d'un coup vous retombez dans certaines habitudes de sédentarité et vous réextirpez du canapé, de votre chaise de bureau, des apéros, des choses comme ça, des repas en famille avec les copains, etc., plutôt que d'aller vous entraîner ou courir. Bon, il faut reprendre l'habitude. Donc c'est vraiment, vraiment, c'est un point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le principe de l'entraînement, c'est l'adaptation. Je demande un effort à mon corps, il va s'adapter pour le faire de plus en plus facilement. Et c'est valable aussi pour le corps, au sens global, le fonctionnement musculaire complet, mais aussi au niveau du cerveau. Parce que même ça, en fait, on se rend compte qu'on perd l'habitude d'aller s'entraîner, que ça devient plus compliqué. Alors que quand on a les habitudes d'aller courir tous les jours, comme moi, ou tous les deux jours, ou 5 à 6 fois par semaine, etc., en fait, ça devient très très facile de le faire. Donc, il faut retrouver ces choses-là. Mais il faut y aller avec progressivité. Si vous avez fait un arrêt long, vous pouvez pas partir de dire je fais pendant plusieurs semaines, j'ai rien fait, pendant plusieurs années, j'ai rien fait, à tout d'un coup vous dire je vais aller faire 5 à 6 sorties par semaine, je vais faire des dizaines de kilomètres, etc. Ça, ce n'est pas possible. En fait, il faut vraiment de la progressivité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, vraiment se dire que là, il va falloir reprendre petit à petit, parce que le corps, il faut lui redonner des nouvelles habitudes. Le corps a pris de nouvelles habitudes, ne serait-ce par exemple si vous avez une blessure. Moi, mon corps s'était modifié parce que ma jambe opérée avait perdu du volume. J'ai perdu 4 cm, 4 à 5 cm de volume autour des cuisses, des mollets. Donc, c'est quand même important, hein, la différence de musculature. Donc, il faut remettre de la force, il faut rééquilibrer, il faut remuscler. Je marchais en boitant à une époque. Donc, ça veut dire que il y a peut-être des appuis qui ont un petit peu changé. Peut-être d'ailleurs les douleurs que j'ai récemment. Je me dis que des fois, peut-être qu'il y a des décalages qui sont aussi créés parce que à une époque, je boitais, que je pouvais pas plier le genou comme je voulais. Donc, j'ai compensé par le reste du corps, et à un moment il faut revenir dans la mécanique du corps telle qu'elle était, et ça on le fait petit à petit par la progressivité. Et donc vraiment, c'est le point qui est important, c'est de se dire que là il va falloir composer avec et reprendre l'entraînement en fonction de son corps actuel quand on reprend, et non pas du corps avant, et non pas de l'image que l'on a du corps que l'on avait avant. Non, on a vraiment le corps de ici maintenant que l'on a. Eh ben, il s'est désadapté à l'effort, il s'est désadapté à certaines choses qu'on lui a demandé, il a évolué, et donc on va s'entraîner par rapport à ses capacités de maintenant, et pas par rapport à les capacités qu'il a eues il y a quelques années, par rapport aux capacités qu'il a eues il y a quelques semaines. Et puis, petit à petit, en fait, au fonction des jours que ça va avancer, le corps qu'on a, il va évoluer, et on va pouvoir l'entraîner en fonction des capacités que l'on va gagner au fur et à mesure. C'est ça la progressivité. C'est pas de dire, en fait, bon, ben là, je me fais un plan d'entraînement pendant 6 mois, je vais rester sur le même entraînement systématique. Comme je l'avais dit, hein, si vous faites que de l'endurance mentale, vous n'allez jamais gagner en vitesse. Quand on fait de l'endurance mentale, qu'on court toujours lentement, si à un moment donné, on rajoute pas de la vitesse, on va jamais gagner en vitesse. C'est logique. Pour gagner en vitesse, il faut faire de l'entraînement de vitesse. Et ben là, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous reprenez la progressivité, c'est de dire, bon là, mon corps, il sait faire ça. Et puis ensuite, il va savoir faire ça, et puis ensuite il va savoir faire ça. Certes, il sait pas faire ce qu'il faisait il y a encore quelques temps, mais petit à petit, je vais le ramener à ce niveau-là, et puis même le ramener à un niveau peut-être supérieur, parce que en fait, on se rend compte qu'on est capable hein, de monter, de prendre des paliers, etc. Il y a des moments, ça va aller très vite. Quand on débute totalement, de façon, ça va très très vite. On retrouve très rapidement des compétences. Et puis à un moment, il va y avoir des espèces de paliers, des freins, des accélérations, etc. Et ça, c'est normal, c'est totalement logique. Et là, à ce moment-là, il faut écouter vos sensations. En fait, je me suis rendu compte, moi, et ça c'est le troisième point, je me suis rendu compte, moi, que j'avais beaucoup perdu de vitesse. Et que ma vitesse de footing confortable avait donc baissé. Quand j'étais à l'aise avant 10 ou 11, par exemple, kilomètres heure, et ben maintenant, après, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise à 8 ou 9. Et ben oui, et c'est ça. Mais c'est normal, j'ai perdu 3 points de VMA. Ma fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque que j'avais en endurance mentale à une époque, j'étais capable de courir en endurance mentale avec un certain battement, ben je me suis rendu compte que quand j'ai repris, je pouvais pas atteindre cette fréquence cardiaque aussi basse en courant à la même vitesse et le même temps, etc. Qu'il y avait une dérive cardiaque qui était logique. La dérive cardiaque, c'est qu'au fur et à mesure de la sortie, le battement cardiaque augmentait systématiquement, en fait, même si ma vitesse n'augmentait pas. Par contre, le cœur, le battement cardiaque augmentait. La conséquence, ça vient de la fatigue, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, il se fatigue, etc. Il n'arrive pas, il faut plus d'énergie, j'ai envie de dire, au corps. Il faut plus de circulation du sang et tout pour avancer. Le cœur a plus de travail. Il arrive moins à le faire, tout simplement. Bon, ben voilà, avant, je pouvais partir une heure en endurance mentale, le battement était toujours au même niveau. Ben là, quand je partais courir un petit peu, au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, ça partait, ça commençait un petit peu à monter vers le haut, même si ma vitesse n'augmentait pas. Et ben, ça voulait dire que l'activité que j'avais sur ce moment-là n'était pas tout à fait adaptée à mes compétences du moment. Et là, c'est la sensation, faut l'écouter. Et il faut sortir de sa montre, en fait. Vraiment, faut sortir de sa montre. Et notamment, si dans votre montre, vous êtes resté sur des réglages du passé. Parce que là, moi, c'est une erreur que je me suis fait. Je m'en suis rendu compte l'autre jour quand j'ai fait une pépite pour les membres du Hamster Zoning Club. J'aurais fait une pépite sur une analyse de mes courses Strava et je me suis rendu compte que dans mes Strava, mais c'est valable aussi sur ma montre, hein, en fait, elles sont réglées comme à l'ancien temps, comme à mon niveau d'avant. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma montre et dans mon Strava, mes zones de fréquence cardiaque et de vitesse sont toujours réglées sur mes anciennes performances. Par exemple, j'avais réglé sur Strava, mes zones de vitesse sont réglées sur mon record sur 5 km qui a 3 ans peut-être, je sais pas, il doit dater de 2020 peut-être, janvier 2020, dans ces zones-là, vous voyez, et donc à un moment donné, j'étais beaucoup plus en pleine bourre, il y avait les entraînements, il y avait beaucoup plus de choses, etc. Je me préparais pour faire mon deuxième marathon et j'avais beaucoup plus de volume et tout dans la semaine, j'avais les entraînements club, c'est juste avant, vous voyez, les confinements, et ben forcément, j'étais réglé sur ce record-là de 5 km. Si maintenant je cours à 5 km, je cours plus doucement. Si je cours un marathon maintenant, je cours plus doucement qu'avant. Mais mes zones d'entraînement, mes zones cardiaques étaient réglées, en fait, par rapport à ces performances de l'époque, par rapport à ma fréquence cardiaque maximum de l'époque, etc. Et franchement, quand l'analyse que je pouvais en faire, c'est me dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre le décalage que je perçois. Et en fait, je dis, bon, bah là, y a un truc. Je fais plutôt confiance à ma sensation. Et c'est logique. C'était logique, en fait. C'est que mon réglage sur d'analyse des données était fait en fait sur des mauvaises bases. Et donc en réglant sur des bonnes bases et sur les bases actuelles de ma capacité du moment, et ben je rentre vraiment dans des logiques où ma plage d'endurance mentale est plus proche de la réalité, où mes allures de mes zones de vitesse sont plus proches de la réalité, etc. Et ça, c'est totalement logique. Mais faites attention, parce que ces réglages là qu'on a un petit peu par défaut dans les montres et autres, si vous les avez réglés à une époque sur un temps, vous dites bah ben voilà quel est votre meilleur temps sur 10 km et que tout se base sur votre temps de 10 km et que vous blessez entre temps, eh bien, faut pas repartir ces zones-là, parce que sinon vous rentrez dans la comparaison avec votre ancien vous qui était le performant. Donc attention, ça revient sur le point 1, la comparaison devient mauvaise. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important, et j'ai envie de dire que ça évolue même, parce que même après une année de course quotidienne, pendant ça fait 382 ou 383 jours que je cours tous les jours, ben, comme j'ai fait moins de vitesse et plus d'endurance mentale, que j'ai fait moins de fractionnés, que j'ai pas travaillé ma VMA spécifiquement, mais que j'ai plutôt travaillé l'allongement, le plaisir, etc. Enfin, vous voyez, le 487 challenge, j'ai pas une grosse vitesse. La préparation du 24 heures, c'est pas une grosse vitesse. Ben, je suis toujours pas, en fait, sur mes allures de l'époque du marathon. Donc, c'est totalement logique à un moment donné que quand j'analyse, ben, mes zones de vitesse sur lesquelles je suis confortable, etc., maintenant, ne sont pas identiques à mes zones de vitesse de l'époque, que mes zones pour travailler la vitesse, pour faire de la VMA, pour accélérer, ne sont pas les mêmes, que ma zone de seuil, alors là, on reparlera un petit peu dans un autre épisode de justement de la limite de ce qu'on appelle les entraînements au seuil et comment il faudrait plutôt calculer les zones. là encore, c'est pas tout à fait le bon réglage. Et donc, c'est à un moment donné, il y a les sensations et puis se dire aussi, attention, attention, peut-être que les outils avec lesquels on mesure ça, bah, on a les sensations, c'est un outil de mesure, mais les montres et les outils tels que Strava, etc., et bah, il faut aussi les re-régler, en fait. Et que quand on a la sensation qu'il y a un décalage entre ce que mesure la montre, ce que nous on sent, comment on le sent, etc., ça vaut le coup, en fait, de voir comment on peut, s'il faut pas réaligner les choses et si par rapport à un truc, on n'a pas un mauvais alignement. Et puis, enfin, c'est important d'analyser, de respecter votre état de forme, parce que ça, c'est vraiment important, et d'analyser notamment pourquoi vous avez eu besoin d'une pause, si la pause a été forcée, si vous avez senti le besoin de la pause, enfin vous avez fait une pause volontaire, mais vous sentiez que vous étiez obligé de faire une pause parce que vous sentiez fatigué, parce que vous sentiez que vous commencez à avoir des douleurs, ou alors si vous êtes blessé, pourquoi à ce moment-là, ça s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'exclus les blessures type chute, entorse, etc. Et encore que, une entorse vient souvent, peut souvent venir de la fatigue. C'est-à-dire qu'une entorse, c'est la proprioception qui est pas bonne, la fatigue, l'approche du pied, la récupération est pas bonne, elle peut venir d'un mauvais sommeil, peut venir d'une mauvaise alimentation, peut venir d'une surfatigue, etc. Il y a des choses qui peuvent venir de ça. Mais là, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire, je me suis blessé à ce moment-là parce que j'étais fatigué. Je me suis senti fatigué, j'ai fait une pause, etc. Qu'est-ce qui se passait? Et d'analyser, en fait, pour ne pas retomber dans le même travers, de vraiment regarder un petit peu les choses. Et souvent, j'entends le discours qui de dire, je reprends à fond, j'augmente la distance, j'augmente le temps, je me mets un petit objectif, etc. Et puis je me sens fatigué et j'abandonne. Et puis au bout de quelques temps, hop, je recommence. Et puis je recommence pareil. Et à chaque fois, je reprends. Je reprends le même rythme, etc. Puis hop, donc c'est soit je suis à fond, soit je suis à zéro. Soit je suis à fond, soit je suis à zéro. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi vous arrivez à ce résultat et pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et là, vraiment, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, comment ne pas arriver au même résultat? Et rappelez-vous la phrase d'Einstein, il faut être fou pour penser qu'on peut avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Si à chaque fois vous reprenez avec les mêmes comportements, et qu'à chaque fois vous arrivez à une grosse fatigue, un épuisement ou une blessure, ah bah, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut refaire quelque chose. C'est-à-dire que là, il faut modifier quelque chose pour justement éviter d'arriver dans cet état-là. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter. C'est pour ça que c'est important d'avoir un journal de course, un petit journal d'entraînement dans lequel on note qu'est-ce que j'ai fait, comment je me sentais, comment j'ai dormi, comment je me sentais, comment le ressenti que j'ai eu, etc. Tout ça, c'est important de le noter. Et c'est vraiment l'une des clés, en fait, qui est importante, c'est d'écouter votre corps, d'écouter votre forme physique, de noter, d'avoir un journal, de regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Parce que si vous avez été fatigué ou blessé à cause, par exemple, de votre fatigue, parce que à un moment donné, il y a beaucoup de choses au boulot, il y a beaucoup de choses dans votre vie familiale, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se mettent dessus et tout. Et ben, si vous notez ça dans une période, par exemple, je sais pas, vous vous rendez compte que le mois de novembre est un mois très chargé et que à chaque fois au mois de novembre, vous sentez des petites blessures, vous sentez une grosse fatigue, etc. Et que vous rendez compte que ça vient aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dans la famille, qu'il y a beaucoup de choses au travail, que c'est une période qui est un petit peu importante. Là, c'est important de faire un état physique, de dire, bah, chaque année, je me rends compte que c'est un moment où ça peut un peu craquer. Et là, vous réduisez, vous écoutez votre corps. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Et dire maintenant, je fais attention aux signaux. Parce que ce qui est important, finalement, c'est de se dire que les douleurs et les fatigues sont des messages que vous envoie votre corps. Donc, faut les écouter. Si vous avez des douleurs et de la fatigue, si vous ressentez de la fatigue, de la lassitude, c'est vraiment un message de votre corps qui dit, là, il y a un truc qui cloche. Si des petites douleurs, alors il y a des douleurs, bien sûr, les courbatures, on en a parlé, ce sont des douleurs qui sont normales, mais quand on a des petites douleurs récurrentes, quand on sent fatigué, quand on a moins envie, quand on a moins d'énergie, quand on perd la motivation, tout ça, il faut se mettre à l'écoute, parce que ce sont des messages que nous envoient le corps et le cerveau pour dire, attention, il y a un truc qui va pas. Et je vous rappelle quand même que le but pour nous, c'est qu'on court pour se sentir bien. On ne court pas pour perdre notre santé, on ne court pas pour se blesser, on court pour se sentir bien, on fait du sport pour se sentir bien, pour progresser, pour arriver à continuer, devenir des vieillards galopants. Et le but du jeu, c'est d'arriver à le faire sans se blesser, sans se surfatiguer, sans perdre de l'énergie, sans se rendre malade avec tout ça, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être à l'écoute. Donc je vous répète les points, hein, vraiment, oubliez le passé, allez avec progressivité, écoutez vos sensations et analysez et respectez votre état de forme. Voilà, c'est fini. Si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Hamsters Running Club et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs et des réponses sur mesure. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs!
Thank you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.